Dernière étape de ce parcours sur la miséricorde, après avoir vu miséricorde et justice, la confession, le pardon entre nous, nous regardons ce soir la question du pardon à soi-même. Vous m'entendez bien? Très bien. Voilà. Lorsque on a reçu le pardon, il peut demeurer en nous le sentiment de s'en vouloir à soi-même, de ne pas vraiment se pardonner, du péché que l'on a commis, du mal que l'on a fait. On pourrait schématiser qu'il y a deux raisons à cela, deux possibilités. Soit je m'en veux d'avoir été nul, d'avoir été mauvais, et le fait aussi que je tombe souvent dans le même péché, je finis par me culpabiliser et m'en vouloir. Soit je m'en veux parce que je prends conscience que j'ai vraiment fait du mal, que ce que j'ai fait a créé des dégâts, des conséquences négatives que je n'accepte pas et je m'en veux de les avoir créées. Est-ce légitime de se pardonner à soi-même? N'est-ce pas un peu facile? Et en quoi cela consiste-t-il? C'est ce que nous allons essayer de réfléchir ensemble ce soir. Alors une remarque préliminaire, Dieu dit à Jérémie, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Oui, notre cœur est très complexe et beaucoup de réactions que nous avons sont liées par exemple à notre dimension psychologique sur laquelle nous avons finalement peu de maîtrise. Nous avons tous des blessures, nous avons tous des limites psychologiques qui interfèrent dans nos comportements. Je n'aborderai absolument pas cette question ce soir parce que je n'ai que 30 minutes et que c'est un très vaste sujet. Je vais surtout parler de l'exercice de notre liberté, de notre intelligence, de notre volonté face à soi-même, par rapport au pardon à soi-même. Malgré nos faiblesses, nous pouvons toujours exercer notre liberté et c'est dans ce sens-là que je vais vous parler ce soir. On pourrait prendre pour le comprendre une analogie. Il y a des personnes qui ont de très graves handicaps physiques et pourtant qui parviennent avec l'usage de leur liberté à devenir de grands artistes ou de grands sportifs. Eh bien, même si on a des blessures psychologiques qui rendent plus difficile l'exercice de notre liberté, celle-ci est toujours possible et nos limites ne nous dédouanent jamais de l'exercice de notre liberté et de notre responsabilité. Donc c'est dans ce sens-là que je vais vous parler ce soir et donc il y a tout un pan de la question que je n'aborderai absolument pas et qui mériterait bien sûr de l'être. Alors pour aborder le pardon à soi-même, je vais partir des deux questions que j'ai posées, des deux situations que j'ai évoquées en introduction. Première hypothèse, je m'en veux parce que je suis tombé et je me suis montré faible. Voilà. Dans ce cas, la tentation tourne autour de l'image de moi-même. Je ne m'accepte pas dans la faiblesse que j'ai montrée dans mon péché et je ne parviens peut-être pas à surmonter cette faiblesse habituellement. La tentation alors de m'en vouloir, de ne pas me pardonner, de me décourager, est lié à ce qu'on appelle l'amour-propre, qui est une forme d'orgueil. Nous avons tous de l'amour-propre, nous avons tous des racines d'orgueil en nous, l'orgueil est à la racine de tous les péchés, il est le capitaine des capitaux, le capitaine des péchés capitaux, comme le disait avec humour Pascal Hyde. L'amour-propre a deux conséquences importantes dans notre vie, celui de nous aveugler et celui de nous accuser. Aveuglement et accusation de notre cœur sont deux caractéristiques de l'amour-propre et de l'orgueil. Regardons comment l'amour-propre nous aveugle. L'amour-propre idéalise mon ego et me rend aveugle sur mes faiblesses. Il fait naître en moi la vanité, la présomption et me maintient dans l'illusion que je peux par moi-même faire du bien. Et il me donne le désir de maintenir les autres dans l'illusion sur l'image de moi-même. Je cherche à être admiré, à être remarqué, à être félicité. Je suis souvent dans la comparaison. Je peux même faire mine de modestie en faisant croire que je n'aime pas les compliments alors que secrètement je les attends. À l'inverse, j'ai beaucoup de mal à être remis en cause, d'être dévoilé dans mes faiblesses. Lorsque l'amour-propre entretient ce genre de regard sur soi, il nous rend aveugles sur la nécessité de nous confesser et sur la nécessité de demander pardon à Dieu, car il rend alors difficile un vrai examen de conscience. Le psaume 35 dit « Il se voit d'un œil trop flatteur pour trouver et haïr sa faute ». Si je tombe, je peux en venir même à nier mon péché et surtout sa gravité. Ou si je le vois, je ne veux pas me confesser, car il faudrait avouer sa faute devant quelqu'un. L'amour-propre cherche donc à minimiser l'aveu, la reconnaissance de la faute et le retarde le plus possible. Et c'est comme ça qu'on va se confesser vraiment au dernier moment parce qu'on n'a pas réussi à faire le pas avant. Regardons maintenant comment l'amour-propre nous accuse. Ce même amour-propre qui niait mon péché peut devenir l'accusateur. Lorsque je prends conscience de ma chute, de mon péché, l'amour-propre va me précipiter dans la désespérance, par l'accusation, la condamnation de moi-même. L'amour-propre m'amène alors à me condamner parce que je ne suis pas celui que j'aimerais être, celui que je rêverais d'être. Il va me dire « tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne t'en sortiras jamais ». Derrière l'amour-propre, Satan n'est jamais très loin. Lui qui est l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit, comme disait l'Apocalypse. L'agneau de Dieu a rejeté l'accusateur par l'œuvre de sa miséricorde, mais l'amour-propre accusateur, lui, nourrit en nous cette mésestime de nous-mêmes, qui peut avoir, comme je le disais en introduction, des bases psychologiques. Il nourrit donc cet esprit d'accusation, de jalousie envers les autres. Il regarde toujours ce qui ne va pas et il a toujours le reproche à la bouche. Ces deux manifestations de l'amour-propre que sont l'aveuglement sur nos faiblesses ou l'accusation sur ces mêmes faiblesses, loin de s'opposer, cohabitent souvent dans notre cœur, compliqué et malade, faisant passer la même personne de la surestime de soi-même à la mésestime de soi. Un coup, je suis dans la vanité, dans la prétention, un peu plus tard, je suis dans le découragement et la condamnation. Il suffit d'une petite bonne action pour que tout d'un coup je me trouve super et d'une chute pour que je désespère de moi-même. Alors voilà donc cet amour-propre qui est à l'œuvre dans le cœur de l'homme, de tout homme, et contre lequel nous devons lutter. Le remède, il n'y en a qu'un, c'est la vérité. Je dois accueillir la vérité sur moi-même et bien sûr sur Dieu. Ni idéalisation, ni dénigrement. La seule vérité telle qu'elle apparaît objectivement quand je fais mon examen de conscience. La vérité, c'est que je suis pécheur et que le Seigneur a déployé sa miséricorde pour me rejoindre là où je suis, tel que je suis, pour me sauver. Nous avons été habitués depuis notre enfance à exalter le bon élève plein de qualités et à blâmer le mauvais élève. Nous avons été habitués à être en compétition et en comparaison les uns avec les autres. Et cela se poursuit dans le monde professionnel et social. Nous avons été habitués à exalter le self-made man, celui qui réussit par lui-même. Nous finissons par penser que nous ne pouvons être aimés que si nous n'avons pas de faiblesse, que si nous sommes des hommes super. Même dans l'Église, nous exaltons les saints selon leurs mérites. Mais nous oublions une chose fondamentale que rappelle saint Paul. As-tu quelque chose sans l'avoir reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? La Vierge Marie a-t-elle mérité d'être l'Immaculée Conception et la Mère de Dieu? L'ange lui dit, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu es l'objet d'un don spécial de sa grâce. Les saints sont devenus saints par grâce de Dieu. Ils ont certes contribué à laisser cette grâce agir en eux, et de ce point de vue, ils ont des mérites. Mais au départ, il y a un don de Dieu qui leur est fait, et sans lequel ils n'auraient jamais pu devenir les saints qu'ils sont devenus, les grands saints que nous admirons. D'ailleurs, tous ces saints le confessent sans hésitation. Je suis saint uniquement par la grâce de Dieu. Notre regard est donc faussé par notre éducation et par l'amour propre qui aimerait tant pouvoir s'attribuer à soi-même les succès pour recueillir la gloire des hommes et s'attribuer le mérite, la réussite et de la sainteté. L'amour propre nous aveugle sur tout ce que nous devons à Dieu et aux autres et tour à tour nous surestime et nous mésestime. Et le même amour-propre qui nous conduit à agir sans Dieu au moment où nous commettons un péché, l'amour-propre qui nous conduit à agir sans Dieu au moment où nous commettons un péché, ce même amour-propre nous empêche ensuite de nous livrer à sa miséricorde. Ainsi, nous croyons que nous devons mériter la miséricorde de Dieu et qu'il nous aimera en proportion de nos qualités et de nos vertus. Or, c'est faux. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés. C'est tout. Il nous aime tous et chacun de son amour divin. Nos péchés font notre malheur. Voilà pourquoi il veut nous en libérer. Nos péchés blessent l'amour qu'il nous porte. Mais lui redouble d'amour, redouble de compassion et c'est l'œuvre de sa miséricorde. Dieu ne nous aime pas plus parce que nous avons plus de vertus ou plus de qualités. Il nous aime depuis le commencement parce qu'il nous a créés. Nous ne pouvons pas être libérés de nos péchés si nous ne laissons pas Dieu agir en nous. Saint Paul le rappelle avec force dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6. « Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se fait illusion sur lui-même. » Sainte Thérèse d'Avila dira à ses sœurs, « Nous n'avons de nous-mêmes rien de bon, nous sommes que misère et néant. » Ce n'est pas du misérabilisme ni de la culpabilisation, c'est la vérité. Dieu veut nous combler de ce que nous n'avons pas. Il nous a créés nus pour nous combler de tous ses dons. Il veut nous faire devenir ce que nous ne sommes pas encore. Nous sommes tirés de la terre, il veut nous combler de sa grâce. Nous sommes pécheurs, il veut nous donner la sainteté. Le ciel et la sainteté ne sont pas à notre portée. Ce sont des dons de Dieu, des dons que Dieu veut nous faire. Nous ne sommes pas autosuffisants face à Dieu. Telle est notre pauvreté radicale, mais une pauvreté qui nous ouvre à la richesse de Dieu. À l'église de Laodicée, dans le livre de l'Apocalypse, l'Esprit parle aux sept églises, au chapitre 3, verset 17, Dieu dit à cette église, « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. » C'est alors que Dieu invite cette église à reconnaître la vérité de sa nudité et à s'approcher de Dieu. Il poursuit, « Alors je te conseille, achète chez moi pour t'enrichir de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. » Et à ce moment-là, Dieu affirme qu'il fait le premier pas. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, j'ai siégé avec mon Père sur son trône. L'enjeu face à notre péché, c'est de nous découvrir nus et de découvrir que nous avons besoin absolument de la grâce de Dieu. L'enjeu de la contrition, c'est de découvrir que je dois me rapprocher de Dieu si je veux pouvoir grandir en sainteté et ne plus retomber. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Chaque fois que je constate mon péché, je suis tenté de m'en vouloir à moi-même, mais ça, c'est le piège de l'amour-propre. Il faudrait que chaque fois que je constate mon péché, je me décide à me rapprocher un peu plus de Dieu, à me tourner un peu plus vers lui, qui est le seul à pouvoir me donner la force de ne plus le retomber. Cette disposition du cœur s'appelle l'humilité. Sainte Thérèse d'Avila disait « L'humilité, c'est la vérité. L'humilité est la vertu du juste regard sur soi-même et sur Dieu. Nous sommes des pauvres que Dieu veut combler. C'est cela la vérité. C'est cela l'humilité. C'est pourquoi la première des béatitudes est celle des pauvres de cœur, Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux vient d'une racine qui, en hébreu, veut dire en marche. Le pauvre de cœur, la pauvreté du cœur nous met en marche vers Dieu, parce qu'elle a conscience que sans Dieu, elle ne peut rien faire. Vous connaissez le Magnificat de la Vierge Marie, qui exalte cette humilité comme le chemin privilégié vers le Seigneur. Il renvoie les riches, il disperse les orgueilleux, il élève les humbles. Les humbles ne sont donc pas les parfaits, ceux que l'on va admirer, ce sont ceux qui ont conscience qu'ils dépendent de Dieu et qu'ils doivent toujours se rapprocher davantage de Dieu s'ils veulent grandir. Lorsque je me passe de la prière pendant une journée, quand j'oublie de prier, c'est que secrètement, je crois pouvoir m'en sortir seul, que je ne perçois pas combien j'ai besoin de Dieu. Mon ego congédie Dieu car il se contente de ses projets, de ses illusions sur lui-même ou qu'il se morfond sur lui-même. Souvent, c'est un péché ou une épreuve qui me ramène à la réalité. Sans humilité, nous connaîtrons la tiédeur qui vient de l'autosuffisance. Si je suis autosuffisant, je n'ai plus besoin de Dieu. Nous serons peu réceptifs à la grâce de Dieu. Et comme le dit Saint Jacques, chapitre 4, verset 6, « Dieu ne nous donne-t-il pas une grâce plus grande encore ?» C'est ce que dit l'Écriture. « Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. » Le plus grand obstacle à l'œuvre de Dieu dans nos cœurs, c'est l'amour-propre, c'est l'orgueil. Saint Paul fit cette expérience, vous vous en souvenez, elle est très connue, pour m'empêcher de me surestimer, voilà le but, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan chargé de me souffloter, etc. Et Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce se déploie dans la faiblesse, se déploie dans la pauvreté. Mais il faut bien comprendre que si Dieu a permis cette épreuve pour Saint Paul, c'était pour qu'il ne se surestime pas lui-même et qu'il ne ferme pas alors son cœur à la grâce que Dieu voulait lui donner pour sa mission. Dieu n'hésite pas. L'humilité qui seule peut ouvrir une âme à Dieu est première à toute autre considération. Et il préférera nous laisser dans la faiblesse d'un péché ou dans une épreuve si la guérison de cette faiblesse ou de cette épreuve devait à terme nous éloigner de lui et nous faire devenir autosuffisants. Pour terminer, je citerai la petite Thérèse que nous aimons tant et elle qui écrit une lettre à sa sœur Marie du Sacré-Cœur, sa marraine. Voilà ce qu'elle lui dit. C'est une des lettres les plus connues de Sainte Thérèse où elle condense toute sa spiritualité du chemin de l'enfance, c'est la lettre 197. Ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà mon seul trésor, ma reine chérie. Pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre? C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Voilà donc comment nous devons vaincre cette tentation de nous en vouloir à nous-mêmes parce que nous nous sommes montrés faibles, par le chemin de la vérité et de l'humilité qui va nous rapprocher de Dieu, parce que plus je me sens pauvre et petit et plus je comprends que Dieu veut me combler de sa richesse. Alors, pour conclure cette partie, si je me pardonne à moi-même, j'entre dans cette humilité et cette vérité et je vais me tourner vers Dieu. Je vais sortir de mes illusions sur moi-même et je ne me dis pas après la confession, « Bon, à partir de maintenant, c'est fini, je ne tomberai plus. » Ça, c'est l'illusion de l'amour propre. Je sors aussi de la désespérance. Je ne me dis pas « À quoi bon faire des efforts ? De toute façon, je retombe toujours. À quoi bon me confesser ? De toute façon, c'est toujours la même chose. » Ça, c'est encore l'amour-propre qui se regarde lui-même. Je vais aussi sortir de la honte. Je ne me dis pas « Que va-t-on penser de moi ?» Non, mais la vraie résolution devant le constat de mon péché, de ma faiblesse, Dieu. Et c'est dans la mesure où je lui laisserai de plus en plus de place dans ma vie que lui me permettra de vaincre mes faiblesses et d'agir d'une façon plus conforme à sa volonté. Alors il y a une deuxième raison qui fait qu'on peut s'en vouloir à soi-même, peut-être encore plus importante que la première. C'est la prise de conscience du mal que j'ai fait et qui perdure. Comment vivre en paix? Comment ne pas s'en vouloir tout en sachant les dégâts que j'ai commis et qui sont encore là? Prenons l'exemple du fils prodigue. Il revient vers le père après avoir dilapidé toute la fortune de son père. Il n'espère rien d'autre qu'un peu de compassion et pouvoir être embauché comme serviteur dans la maison du père pour rembourser progressivement sa dette. Et il rencontre le père, il expérimente sa miséricorde inouïe, le père le rétablit dans la filiation et ne lui demande absolument rien en échange. Pas le moindre reproche, pas le moindre remboursement de l'héritage dilapidé. Ce qui provoque la colère du frère. Colère qu'il faut quand même entendre, car après tout, ne serait-il pas légitime quand même que le fils prodigue se montre un peu responsable et cherche à rembourser sa dette? Il a été pardonné par son père, rétabli dans la filiation, mais quand même, il a dilapidé la moitié de l'héritage. Ne serait-il pas normal qu'il ne restitue pas sa situation comme si de rien n'était? Autre exemple, celui de Zachée, en Luc 19. Cet homme qui a vécu malhonnêtement rencontre Jésus et prend conscience du mal qu'il a fait. Il décide de réparer en remboursant 4 fois plus tous ceux à qui il a volé. Jésus ne lui dit pas que c'est exagéré. Il ne lui dit pas « t'es pardonné, tu n'as pas besoin de faire autre chose ». Jésus approuve et déclare « aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». Dernier exemple, celui de saint Paul. Il a persécuté l'Église. Il en a bien conscience et en garde le souvenir douloureux. Il dira aux Corinthiens à qui il écrit sa première lettre, au chapitre 15, « En tout dernier lieu, Jésus est apparu à l'avorton que je suis, car moi je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi. » Saint Paul n'a jamais oublié le mal qu'il avait fait, ces 4 chrétiens qu'il a persécutés durement. Il dira dans une autre lettre, « Ma conscience ne me reproche rien. » Ce qu'il veut dire qu'il s'était pardonné à lui-même. Mais vous avez entendu, « Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. » Il avait bien conscience que le mal qu'il avait fait devait obtenir de lui une forme de réparation dans le don de lui-même pour l'annonce de l'Évangile. Essayons de comprendre un peu plus de quoi il s'agit. L'Église, comme l'avait rappelé le père Jean-Baptiste dans son premier enseignement, a toujours distingué la faute effacée par le pardon et la peine qui est la conséquence du péché, les dégâts causés par le mal commis. Et le pardon de la faute ne répare pas la peine. Si j'ai cassé le bras de quelqu'un et qu'il y a un pardon qui est donné, le bras n'est pas réparé pour autant. Il faut que je prenne la peine de le soigner, de faire en sorte que le bras guérisse. C'est ce que l'on appelle la peine, la pénitence ou la réparation du mal. Une chose dans ce domaine est essentielle à comprendre. Dans le domaine des péchés, c'est la charité qui répare. La charité couvre une multitude de péchés, dit saint Pierre dans sa première épître au chapitre 4, verset 8. Il savait de quoi il parlait. Il avait renié par 3 fois Jésus, qui pour réparer lui a posé 3 fois la question « M'aimes-tu ?» Les péchés causent 3 formes de peine. La première, c'est à celui qui les commet. Il affaiblit l'âme. Par la foi et la charité, l'âme va au contraire se sanctifier et réparer cette blessure qu'elle a commise par son péché. Parmi les façons classiques de réparer, il y a par exemple le jeûne que l'on propose en carême, qui libère l'âme de son égoïsme et des attachements désordonnés. Mais il y a beaucoup d'actes de charité, bien sûr, dont on pourra parler. La deuxième conséquence du péché, c'est qu'il blesse profondément Dieu. On peut se rappeler du message du Christ à Sainte Marguerite Marie. « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, il reçoit de la part d'entre eux que des ingratitudes, mépris, irrévérence et froideur. » Nos péchés blessent profondément l'amour que Dieu nous porte. À Marguerite Marie, Dieu va demander l'adoration réparatrice et la communion réparatrice des premiers vendredis du mois. Mais au-delà de cette dévotion particulière, toutes les formes de prière dans notre vie viennent réparer l'offense que nous avons montrée à Dieu en se détournant de lui par notre péché. Enfin, il y a la blessure vis-à-vis des autres. À ce sujet, la réparation pourra intervenir de différentes façons, mais c'est toujours la charité envers les autres qui va être vraiment réparatrice. Notons que cette notion de pénitence, de réparation par rapport au mal que nous avons pu faire, comprend toujours une forme de souffrance, puisque le propre du péché est de faire souffrir. Il est inévitable que la réparation comporte toujours une forme d'effort, une forme d'épreuve, une forme de souffrance. Mais c'est dans la mesure où la charité va porter cela que cela deviendra réparateur par rapport au mal que l'on a commis. Remarquons encore que nous ne pourrons jamais réparer le mal que nous avons fait, les péchés que nous avons commis. Le seul qui répare les péchés, c'est le Christ, le Fils de Dieu fait homme, qui a souffert sur sa croix pour le pardon et la réparation des péchés. Mais en grandissant dans la foi et la charité, nous participons à cette réparation, et c'est là une dignité que Dieu nous accorde. Au purgatoire, les âmes qui sont au purgatoire expient le fait que leurs péchés les ont maintenus dans une non-charité. Les âmes du purgatoire ont pu être pardonnées de leurs péchés, mais elles n'ont pas assez grandi dans la charité vis-à-vis de Dieu et du prochain pour pouvoir entrer au ciel. Elles ont peu réparé leurs fautes par la charité. Elles se sont peu sanctifiées. Pas suffisamment en tous les cas. Alors, regardons de façon plus précise en quoi consiste cette réparation que l'Église nous enseigne et que nous sommes appelés à vivre justement pour passer du fait de s'en vouloir à soi-même à une action positive qui est simplement de réparer le mal. Il y a deux formes de pénitence, deux formes de réparation. L'une que l'on appelle active, l'autre que l'on appelle passive. Regardons la première, la pénitence active. Il y a trois formes de pénitence active. La première, elle est assez simple, c'est celle que le prêtre vous donne quand vous vous confessez. C'est souvent une pénitence assez symbolique, une prière, une aumône, un acte à faire, mais elle vous engage à entrer dans une attitude plus profonde de pénitence intérieure et de réparation, de prendre conscience que les péchés demandent à être réparés. Le pardon des péchés nécessite d'accomplir sa pénitence, vous le savez. Il y a une autre pénitence qui, elle, est indispensable et s'impose par devoir de justice. Je vous lis le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2487. Toute faute commise à l'égard de la justice et de la vérité appelle le devoir de réparation, même si son auteur a été pardonné. Lorsqu'il est impossible de réparer un tort publiquement, il faut le faire en secret. Si celui qui a subi un préjudice ne peut pas être directement dédommagé, il faut lui donner satisfaction moralement, au nom de la charité. Ce devoir de réparation concerne aussi bien les fautes commises à l'égard de la réputation d'autrui. Cette réparation morale et parfois matérielle doit s'apprécier à la mesure du dommage qui a été causé. Elle oblige en conscience. Voilà une réparation qui n'est pas facultative et que le Christ ne prendra pas en charge. Si j'ai commis une injustice, en pleine conscience, je dois la réparer. Bien des âmes du purgatoire se sont manifestées à des saints et ont demandé qu'on aille réparer une injustice qu'elles avaient commise en disant que tant que cette injustice n'était pas réparée sur la terre, elles seraient liées au purgatoire et ne pourront pas en sortir. Une âme qui s'accommode consciemment d'une injustice ne peut pas entrer au ciel. Marguerite Marie raconte comme ça que le médecin de la communauté qui était décédé était venu la trouver pour qu'elle aille demander à sa femme de réparer une injustice pour le salut de son âme. Mais il y a de nombreux exemples de ce type. Troisième forme de pénitence active, c'est tout ce qui va être choisi d'être vécu dans la foi et la charité. Je recite Saint Pierre que j'ai cité tout à l'heure, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Le point de départ de cette pénitence active est la prise de conscience de la gravité du péché. Dans la parabole du débiteur impitoyable, Jésus évoque le péché de l'homme face à Dieu en parlant de 60 millions de pièces d'argent, une dette de 60 millions de pièces d'argent, une dette incommensurable, irremboursable. Nous sommes souvent aveuglés sur notre péché et nous sous-estimons l'importance de la pénitence active qui nous revient. Combien de péchés par omission, quand nous avons égoïstement privilégié notre intérêt à celui des autres, que nous avons négligé la prière, la formation chrétienne, combien d'heures perdues dans des banalités sans importance au lieu de se tourner vers Dieu, vers son prochain, d'approfondir sa foi. Combien de fois nous privilégions notre amour propre, cherchant à dominer les autres, à nos intérêts égoïstes, à notre vaine gloire. Le nombre de péchés que nous commettons, même s'ils ne sont pas toujours d'une gravité manifeste, s'accumulent de jour en jour et finissent par représenter une dette incommensurable face à Dieu. Lorsque la Vierge Marie apparaît à Lourdes, elle guérit les malades et exhorte « Pénitence, pénitence, pénitence !» Et lorsqu'elle apparaît à Fatima, elle allume dans le cœur des trois enfants un feu de compassion pour les pécheurs et leur propose de supporter de nombreuses épreuves et d'offrir beaucoup de sacrifices en réparation pour les péchés du monde. À Medjugorje, la Vierge accomplit de nombreux signes pour éveiller la foi des fidèles et leur demande de jeûner et de prier pour la paix et pour la conversion des pécheurs. Oui, cette pénitence active vient de la prise de conscience que dans nos propres vies et dans le monde, le péché cause beaucoup de mal qui demande la réparation d'une foi agissante par la charité. Comme l'heure tourne, je vais passer à la pénitence passive. Vous connaissez cette parole de saint Paul, « Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui aiment Dieu » Romains 8, 18. La providence divine veille sur nos vies et donne à chacun ce qui convient pour son salut. Nous devons croire que si nous voulons réellement suivre le Christ et être avec lui pour toujours, la providence mettra sur notre route le moyen d'exercer la charité et les épreuves nécessaires à la purification de notre cœur, au salut de notre âme et à l'accomplissement de notre mission. Par exemple, un collègue de travail m'insupporte. Dieu m'invite à travers lui à exercer la patience et à pardonner, ce qui participe à la réparation de mes péchés et me rapproche du Christ. Ce collègue, finalement, qui m'exaspère, est un don de la providence divine. Nous devons reconnaître dans nos épreuves comme dans nos bonheurs, la main de la providence divine et accepter nos épreuves comme des pénitences. C'est la pénitence passive. À ce titre, la prière que propose après l'absolution, le sacrement de le rituel de la confession est explicite. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, tout ce que vous ferez de bon et supporterez de pénible, contribue au pardon de vos péchés. Contribue au pardon dans le sens qu'il contribue à la réparation de vos péchés. Augmente en vous la grâce de Dieu pour que vous viviez avec lui. Plus je commets le mal et omets de faire le bien, plus la providence divine permettra que des souffrances visitent ma vie pour réparer mes péchés, mes omissions, pour autant que je veux suivre le Christ. La providence veut m'éviter le purgatoire, la providence veut que j'aille au ciel. La pénitence passive est donc l'acceptation patiente et humble de nos épreuves dans la foi et la charité. Saint Paul dit « Dieu est fidèle et ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » Soyons sûrs donc que Dieu fait tout concourir à notre bien et que nous pouvons reconnaître dans tous les éléments de notre vie cette action de la providence divine qui nous appelle à travers la charité à réparer nos péchés et ceux de l'humanité. La providence divine se glisse jusque dans les plus petits détails. Je n'ai pas eu la force ou le courage de jeûner. Dieu va permettre qu'on me serve un repas que je n'aime pas. Je me suis comporté de façon égoïste. Dieu va susciter une circonstance où je suis privé d'un bien que j'aime. Si je ne reconnais pas la providence qui m'interpelle à la conversion, je vais râler et je vais perdre une belle occasion de réparer mes péchés en convertissant mon cœur. Les deux larrons qui entouraient Jésus en croix furent placés là par la providence divine. Le bon larron a su saisir ce moment providentiel. L'autre non, car il s'est révolté. Il n'a pas laissé parler en lui la charité. Le bon larron, lui, a regardé sa vie en vérité. Il a demandé pardon. Il ne s'est pas révolté devant l'épreuve de la croix, la considérant comme le lieu de la réparation de ses fautes. « Pour moi, c'est juste, » dit-il à Jésus. Et il a manifesté sa compassion et sa foi au Christ. Ce qu'a vécu le bon larron en un instant providentiel sur la croix, nous avons à le vivre pas à pas tout au long de notre vie, en reconnaissant dans nos épreuves des occasions de grandir dans la foi et la charité, et ainsi de participer à la rédemption du monde.
On en est à 38 minutes, donc tu as 5 minutes si tu veux. T'as 5 minutes.
J'aurais pu vous donner un petit exemple, mais je ne vais pas le donner. Vous le trouverez sur le texte, si vous voulez y reporter, qui donne l'exemple d'une vie qui a été dans cette réparation de pénitence. Je vais conclure en terminant. Finalement, l'enjeu de tout cela, c'est le juste amour de soi-même. Nous n'avons qu'un seul cœur. C'est ce même cœur qui est appelé à aimer Dieu, à aimer les autres et à s'aimer soi-même. Jésus nous commande « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est un commandement, c'est aussi une constatation. Si je ne m'aime pas d'une façon juste, je ne pourrai pas aimer les autres d'une façon juste, ni Dieu d'une façon juste, car je n'ai qu'un cœur. Si je m'aime d'amour propre, si l'orgueil m'anime, j'aime une idole. Ce n'est pas moi que j'aime. C'est une fausse image de moi. Je ne m'aime pas en vérité. Et finalement, en échange, je déteste la vraie image de moi, la réelle image de moi. Dans ces conditions, je ne pourrai pas aimer les autres comme ils sont. Car le même amour propre qui m'idolâtre ou me juge voudra idolâtrer ou juger les autres, les idéaliser ou les critiquer, les jalouser, les comparer. Et mon regard sur Dieu, lui aussi, sera faussé de la même façon. Soit l'amour propre me fera craindre Dieu comme un juge accusateur, soit il me fera imaginer un faux Dieu à ma convenance, et dans les deux cas, je n'aimerai pas Dieu tel qu'il est en vérité. Ainsi, apprendre à me pardonner, c'est apprendre à m'aimer comme je suis. C'est un fruit de la miséricorde de Dieu. L'expérience vécue dans la vérité grâce à la miséricorde que Dieu nous fait me purifie des fausses images de moi-même et me fait comprendre combien je ne suis rien sans Dieu. C'est alors seulement que commence la véritable conversion. J'ai été un peu long, je vous prie de m'en excuser. Et je crois que nous allons...